L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Dévastation. Ce nom qui claque dans l'air humide et matinal de ce début d'été n'est pas celui d'un cheval. Ce n'est pas non plus le sobriquet d'une arme qui aurait fait ses preuves sur les champs de bataille du monde, non. Non, c'est le nom d'une auto. Une Panhard et Levassor. Un monstre de vitesse pure. Un étalon d'acier au comportement difficilement prévisible et au maniement dangereux. Cette voiture, elle appartient au baron Pierre de Craouët. Un pilote dont les lettres de noblesse ne sont plus à faire. Au volant de son bolide, il a gagné la première course Bruxelles-Spa. Mais aujourd'hui, la donne est bien différente. Après cette victoire, dans une course émaillée de nombreux accidents, il a une idée de génie. Rouler sur un circuit fermé. Voilà qui serait beaucoup plus sécurisant. Le soleil se lève à peine et nous sommes au cœur des Ardennes. Ce matin, comme un rêve devient réalité, Pierre de Craouët prend le départ de sa course. Oh, il voudrait la gagner, cette première édition, bien entendu. La moustache humide de gouttelettes de la rosée matinale, le baron entre dans sa voiture, d'un bond. Privilège de l'organisateur, il part en tête. Nous sommes le 1er juillet 1902, il est à peine plus de 5 heures du matin et c'est l'heure H de mon histoire. Quelques minutes plus tôt, le jeune homme de 27 ans s'est présenté sur la ligne de départ. Au milieu des participants et des engins motorisés qui, toutes catégories confondues, vont bientôt s'élancer dans un nuage de fumée, se trouve son frère, Jean. Jean est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Pierre et Jean ont près de 11 ans d'écart, mais ces deux extrémités de la branche familiale se rejoignent dans les projets et les envies. Ils sont les têtes brûlées d'une famille coutumière du fait d'avoir dans ses rangs des destinées extraordinaires, et ce, depuis toujours. Mais l'heure n'est pas au souvenir. Jean attrape son petit frère par l'épaule, lui tapote la joue gauche. Leurs yeux brillent, comme un moment inoubliable dans un espace-temps qu'ils se construisent. Ensemble, les frères quittent un instant la ligne de départ pour se communiquer de la force. Joseph, l'un de leurs frères, vient les tirer de cette rêverie presque mystique. Un jour, Joseph sera maire de la ville de Spa et eux, bientôt, seront des héros qui vont entrer dans l'histoire. Les premiers moteurs rugissent et les bêtes de métal patiemment attendent. Des pots d'échappement sortent la fumée noire des machines prêtes à en découdre. Les pilotes, pour la plupart, entrent dans une intense et ardente concentration pour avaler les kilomètres, pour terminer cette course en vie aussi. Les premières courses automobiles sont loin, très loin d'offrir une sécurité optimale. Oh, ça, tout le monde le sait. Ces gladiateurs de la route, assurément, sont des pionniers d'un genre nouveau. Ils construisent le sport de demain, mais au-delà de ça, participent à leur manière à bâtir les fondations de la conduite automobile, qu'elle soit sportive ou civile. Le baron de Craouët est le premier qui, dans un éclair de génie ou de folie, c'est selon, a imaginé courir des courses sur une boucle fermée. Loin d'être ridicule du fait de sa taille, après d'âpres discussions avec les communes concernées et les différents comités, tout le monde se met d'accord sur un tracé qui dépasse les 80 km par tour. Il faudra boucler 6 fois le tracé et passer la ligne d'arrivée en tête pour remporter l'épreuve. Un peu plus de 500 km donc. Ce qui, avec les voitures d'alors, prendra certainement plus de 5 heures. Cela explique donc le départ de ce matin qui se déroule aux aurores. Pierre de Craouët, les yeux dans le vague, repense à son choix d'avoir organisé cette première course du genre dans les Ardennes. Quelle meilleure région que celle-là ? Bon, premièrement, c'est l'un des berceaux de la famille. Mais surtout, la combinaison entre les paysages splendides et les dénivellations de routes réputées difficiles oblige à faire appel à des pilotes expérimentés et des machines performantes. l'assurance d'un spectacle extraordinaire donc. Un sourire en coin sous sa moustache parfaitement taillée pour l'occasion, le baron a aussi en tête la troisième raison, presque évidente. Dans les Ardennes, la densité de population est plutôt faible. C'est mathématique. Moins de monde, moins de risques d'accident. Le pilote contrôle ses lacets de chaussures, ferme son manteau, et là il ne sourit plus. Les dernières courses de ville à ville ont été à quelques reprises tout bonnement catastrophiques. Les collisions entre les voitures, voilà un des risques du métier, certes. Mais croiser un vélo, faucher des imprudents qui traversent les routes, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à accepter. Derrière lui, l'anglais Jarrot rentre dans son cockpit. De la même marque que le bolide du baron, un numéro 32 fraîchement peint trône de manière un peu ridicule au milieu de la carlingue. Le petit British, tout jeune, a l'avantage d'avoir pour mécanicien le manager de la marque Panhard et Levasseur. Ils viennent tous les deux de Londres. Pierre sent bien que le gamin est mort de trouille. Totalement envahi par le stress. Il tremble. Se focalise sur tout un tas de rituels en dehors, puis dans l'habitacle. Il fait des signes de croix à n'en plus finir, et déjà en eau alors que le jour se lève à peine. Mais Pierre ne le blâme pas. Il préfère de loin les anxieux aux têtes brûlées. Ceux qui ont conscience de la fragilité de la vie et du danger de rouler dans ces tombeaux de métal sont ceux qu'il vaut mieux croiser dans les virages. Les autres, ceux que la mort n'effraie pas, ou pire, ceux qui se pensent immortels, ceux-là. Il est parfois très difficile de composer avec eux. Fort heureusement, lorsqu'ils se retournent pour observer les participants qui commencent à s'agiter autour de leurs engins, ils voient des visages crispés, certes, mais qu'ils connaissent bien. Hormis l'une ou l'autre exception, peu de pilotes dangereux dans les parages. Pierre de Craouet, lui, se concentre toujours bien en amont des courses. Une fois sur la ligne de départ, il est serein, vidé de ses tensions et de ses questionnements. Alors il attend 5 heures, l'heure du départ, avec une neutralité qui déconcerte et qui impressionne. Le soleil se lève au loin, son éclat vient percer à jour la vie de la nature ardennaise environnante. Pierre respire un grand coup, renouvelle son énergie, purifie ses poumons. Dévastation, sa voiture n'a pas encore démarré. Chaque chose en son temps. D'abord, apprivoiser la bête, alors qu'elle n'est pas en train de rugir. Contrôler les paramètres, toucher du bout des gants le volant, passer ses semelles sur les freins. Rien n'échappe à son œil de feu, à son esprit qui part dans tous les sens et cherche à répondre le plus vite possible aux interrogations qui l'assaillent. Tout est prêt. Son bolide est paré. Le démarrage bientôt est assuré. Dans un ronronnement caractéristique d'un moteur en pleine forme, Dévastation se drape d'une aura supplémentaire, celle des guerrières qui se préparent pour aller chercher la victoire. Pierre de Craouet, lui, n'a pas oublié de s'équiper. Gants, long manteau, casquette et lunettes vissées sur la tête. La buée qui vient se glisser le long de ses carreaux l'empêche de bien voir la foule qui s'est pressée au pied des engins et qui, maintenant, est invitée à reculer. 4h58. Nous sommes à 2 minutes du départ. L'histoire lui ouvre ses portes. Encore quelques secondes et les premiers mètres de bitume seront avalés avec gourmandise par les pneus crissants de son engin. Oh, il connaît bien cette voiture. Elle vient de courir le Paris-Vienne aux mains d'un autre pilote en qui il a confiance. Cette voiture, elle est parfaite. À côté de la ligne de départ, Jean de Craouet regarde son frère, les yeux pleins d'émotion. Ils l'ignorent tous deux à ce moment de notre histoire, mais les deux frères vont ensemble défier les lois du rationnel, repousser toujours plus loin les limites. Le vent des montagnes portant haut et fort les couleurs nationales belges à l'international. Ah oui, vous pouvez me croire. Bientôt, Pierre de Craouet fera son entrée dans la cour des immortels. À l'organisateur, premier honneur. Dans un bruit de pneus et de pièces métalliques, la panard se décolle des pavés et son illustre conducteur joue des mécaniques, emmitouflé dans son manteau. À sa suite, la harde des autres concurrents, toutes catégories confondues, se mélange et se percute déjà les uns les autres. C'est un véritable foutoir, mais peu importe. Le baron, lui, roule déjà à plus de 80 km par heure, le long des petits chemins. Ses lunettes sont embuées de gouttes de rosée qui réduisent son champ de vision et le bruit de la motorisation lui donne des acouphènes. Pour lui, c'est le bonheur. L'odeur de l'essence, le soleil qui se lève, les chevaux curieux qui le regardent passer, incrédules, tout le tableau de ce matin est particulièrement savoureux. Il file comme un ouragan. La formule est celle d'un journaliste sur place. La clameur sur le bord des routes est totalement dingue, alors que c'est l'heure où les gens dorment encore habituellement. Le baron peine à l'entendre, lui, mais ses frères, eux, à chaque tour, mesurent la pleine force de l'engouement. À la fin de son deuxième tour bouclé, l'organisateur, aussi favori avec son monstre motorisé, remporte une première coupe, celle qu'on appelle Radzinski, le premier qui franchit les premiers 100 km du parcours. Sa vitesse moyenne est de 121 km par heure. Une performance d'anthologie. Le froid ambiant lui rosit les joues et rend les mouvements difficiles. Malgré le manteau, malgré les gants. Le temps passant, de plus en plus de curieux se pressent sur le bord de la route. Pierre de Craouet n'a pas le temps de se retourner, mais derrière lui, la concurrence est aussi féroce qu'impitoyable. C'est à celui qui va réussir à faire tomber le noble de son piédestal. Personne ne lui arrive à la cheville. Il vole sur les routes, ne cesse d'augmenter en vitesse. L'envol est fulgurant. Pour les paysans dans les champs qui travaillent déjà la terre, c'est presque irréel de voir passer ces bolides à toute vitesse. À la manière des conducteurs de chars dans les arènes de la Rome antique, ces demi-dieux de la route, sur circuit fermé pour la première fois, domptent des montures qui n'ont rien de docile. La panard a tout d'un étalon, indomptable, sauvage. La main gauche sur le volant, la droite sur l'armature de la voiture, Pierre tente de maîtriser la bête. Et c'est tout un art. Il traverse les villages à pleine balle, remarque à peine les gendarmes qui se tiennent sur le bord de la route et qui veillent à l'encadrement du public qui se masse pour découvrir ce tout nouveau concept. Dans d'autres paroisses, certains curés ont averti depuis des semaines leurs ouailles de la nécessité de ne pas laisser leurs animaux en liberté au passage des monstres. C'est le baron qui a demandé que toutes ces mesures soient prises. Son idée de circuit fermé n'est pas née dans son esprit comme un éclair de génie, non, non. Il a vu de ses yeux ce que les courses de ville à ville et le manque de préparation en sécurité pouvaient coûter. Les nombreux accidents qui y ont généralement lieu sont bien souvent mortels. Alors, il en a parlé à son frère Jean et tous deux ont cherché une solution autour d'un café sur le comptoir. Jusqu'à cette idée géniale de faire une course sur le même tracé, encore et encore, jusqu'à l'ivresse, jusqu'aux pointes à 140 dans les lignes droites, plus longues que ce que les pilotes avaient jamais pu voir. Le risque à chaque virage, la mort au bout des patelins qui attend patiemment la moindre petite erreur. Début du troisième tour, le baron est toujours en tête. Tout semble se dérouler à merveille. Gagné. Gagné, il n'a que ce mot-là à la bouche depuis des semaines. Mais vous le savez, le destin est joueur et il s'apprête à le cueillir à froid. Derrière lui, la foire d'empoigne commence à faire ses premières victimes. Genazzi, celui qu'on appelle le diable rouge tellement sa conduite est agressive, se retrouve le nez dans le fossé. Ses roues ont cassé. Ah, bien moins facile d'avaler du kilomètre sans elle, vous en conviendrez. Alors le pilote se défoule sur son mécanicien qui n'a bien entendu rien demandé. Des insultes en flamand fusent à gauche et à droite. Et le pauvre bougre s'enfuit à travers bois, espérant échapper au courroux du diable. Decater, lui, juste derrière, passe la scène et s'amuse de voir son concurrent en mauvaise posture. Il ne va pas rigoler longtemps. Deux virages plus loin, et c'est l'accident. Comme lors des épreuves du Tour de France, deux hommes se sont mis sur la route et font les malins. Ils font traverser leurs enfants. Le pilote pile, se retrouve à mettre un coup de volant imprudent qui le propulse dans le fossé. Impressionnant, mais il en sort indemne. Sa frustration ira, elle, se loger dans la mâchoire de l'un des spectateurs ayant causé l'incident. Enfin, alors qu'il s'apprête à boucler son deuxième tour, le pilote Terry fait une mauvaise rencontre à 85 km à l'heure. À la sortie d'un village, Marguerite, une jolie vache normande de 7 ans, se décide à aller se promener sur la route le mauvais jour, au mauvais moment. C'est la collision. Cette fois, un peu plus grave. Marguerite ne s'en sortira pas. Le pilote, lui, sonné, peut dire adieu à sa voiture. Le moteur s'étant fait la malle. Et le baron, dans tout ça, pas de bol pour lui. Il n'est pas beaucoup plus chanceux. Il se retrouve pris dans un accident au cœur de son troisième tour et percute un véhicule de la catégorie tourisme qui va donc beaucoup moins vite que lui. La bagnole de Pierre de Craouet est foutue. La victoire n'est donc pas pour cette année. Et peu importe. Le principe est validé par tous et va se généraliser. Le tout grâce à l'idée de génie de cet homme qui déjà défie les lois de la normalité. Les soirées au coin du feu avec un bon bouquin, très peu pour lui. D'autant qu'il est encouragé dans cette voie par son frère Jean, qui ne tarde pas à rejoindre l'aventure. Les deux frangins aux costumes impeccables vont se lancer dans une course constante à l'innovation. C'est à croire que le concours est de savoir lequel des deux, entre Pierre et Jean, est le plus tête brûlée. Une fois la course des Ardennes lancée en 1902, le tout est de la gagner. Ce sera chose faite pour Pierre l'année suivante qui, cette fois, n'aura pas la mauvaise idée de percuter un véhicule et donc écrasera la concurrence. Les années suivantes, Mercedes, Fiat, Napier se mettent en selle pour placer des voitures sur ce circuit fermé des Ardennes qui commence à se faire une réputation grandissante. L'aventure de Pierre de Craouet à la tête de cette course se poursuit encore quelques années. Après l'édition de 1907, le baron et son frère Jean décident de passer la main. Et comme la demi-mesure n'est décidément pas un concept qui leur sied, ils réfléchissent à lancer une course qui passerait par 5 pays avant de se finir sur le tracé habituel du circuit des Ardennes. 5 pays, rien que ça. Avec leur verve habituelle, les deux frères présentent le projet, mais cette fois se font doubler au finish. Une pression politique les pousse à abandonner leur idée et surtout à changer l'endroit de la course. Direction la ville de Spa. C'est d'ailleurs sur base de la nouvelle lubie routière du baron que sera tracé le circuit d'origine de Spa-Francorchamps en 1921. Pierre et Jean de Craouet, donc, sont ceux qui posèrent les premières pierres de l'histoire de la course automobile en Belgique. Rapidement pourtant, et malgré ce statut de pionnier, les deux frères se décident à changer d'air. Le circuit des Ardennes, c'est bien, ouais, mais bon, il faut tenter de pousser plus loin les prouesses mécaniques de leur bolide. Ils pensent alors tenter quelque chose sur le continent africain, et plus précisément dans le désert algérien. Ils fondent dès 1904 ce qu'on appelle la Coupe Sneyden. Une épreuve totalement dingue qui met les organismes et surtout les machines à rude épreuve. Pourtant meilleur pilote que son frère aîné, Pierre va se faire laminer par Jean qui, avec une panard, toujours de 70 chevaux, va totalement survoler la concurrence. Mais la Coupe Sneyden a cela de visionnaire qu'elle se déroule en plusieurs petites étapes et forme, en quelque sorte, ce qu'a pu être par la suite et à plus grande échelle, le Paris-Dakar. Mais les deux frangins sont bien les premiers à croire que faire patiner les pneus dans le désert était une bonne idée. Alors, vous commencez à mieux les cerner, n'est-ce pas? Deux têtes brûlées, certes, mais de génie aussi, qui défient les lois du progrès, tentent, expérimentent, gravissent des montagnes et participent à inventer le monde automobile tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les deux jeunes hommes ont la chance de vivre dans un temps où l'automobile en est à ses balbutiements, où tout est à faire et où tout est possible. Le temps durant lequel on lâche les chevaux et les calèches pour manier du levier de vitesse et les coups de volant. Le baron Pierre de Craouët, durant ses premières années du siècle, va aussi tenter le pari de l'aviation. Il sera l'un des premiers à poser ses fesses dans un triplan. Il en fabrique un de ses mains, aidé par son frangin, Jean, bien entendu. La machine sera même exposée au 8e salon de l'automobile belge du 16 au 26 janvier 1909. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes, celui des inventions et des perpétuels changements. Pour autant, rien dans la vie n'est jamais simple. Et le monde, en constante évolution, ne cesse de changer, de surprendre. Parfois avec fracas et avec chaos. Pierre et Jean de Craouët, comme les autres, vont être saisis et emportés dans le tourbillon de la Première Guerre mondiale. Mais comme décidément, ces jeunes hommes de la noblesse belge ne font rien comme les autres, ils vont prendre les armes. Pas n'importe lesquelles. Ils vont créer les premières automitrailleuses de l'histoire. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Oui, mais non. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont choisir, contre toute prudence, de partir se battre au volant de leur nouveau jouet. Pas en France, non, pas en France. En Russie, au cœur des steppes et du froid polaire. Attachez vos ceintures. La baronnie des héros n'a pas fini de vous surprendre.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur une histoire aussi folle que méconnue, alors qu'elle est issue de notre terroir. Celle des frères Pierre et Jean de Craouët, pionniers de l'automobile, de l'aviation et foot technologie. Le premier circuit fermé de l'histoire, c'est leur idée. Le premier circuit de Spa, bingo, c'est aussi leur idée. Les premières automitrailleuses, nés de leurs mains dans un monde qui entre en guerre mondiale, toujours de chez eux. Et que dire du fait que maintenant, avec ces engins tout droit sortis de leur tête, ils vont aller se battre jusqu'en Russie. L'histoire, vous allez voir, est loin d'être finie. Nous sommes le 22 septembre 1915. La guerre, déjà, fait rage depuis près d'un an. Nous sommes à Brest, magnifique ville portuaire de l'océan Atlantique en France. Déjà bien loin des Ardennes et des circuits fermés. Non, aujourd'hui, Pierre et Jean de Craouët ne vont pas se battre sur la piste. Ils partent à l'aventure. Les deux frères sont à bord du SS Waycastle, un navire de guerre de la Royal Navy. La maîtresse des mers l'est toujours et sa puissance séculaire va permettre à nos héros de rejoindre un front aussi méconnu que dangereux, la Galicie. Un corps expéditionnaire a été mandaté afin de rejoindre les troupes du tsar Nicolas II aux prises avec les troupes de l'Empire austro-hongrois et de l'Allemagne. Pierre, le regard dans le vague, contemple les reflets du soleil sur l'eau dansant sur le port. Le bateau largue les amarres et, sur le port, de nombreux badauds sont là pour saluer leur départ. Plus de 300 hommes se pressent sur le pont du navire pour regarder ces civils au mouchoir levé. Pierre de Craouët se gratte la moustache. C'est souvent que cette manie le prend lorsque l'inquiétude, une vieille amie, pointe le bout de son nez. Derrière lui, son grand frère Jean, c'est une évidence, a aussi répondu à l'appel. Ces deux-là sont cul et chemise depuis toujours, partagent avec force et entrain toutes les aventures. Ils s'aiment de la meilleure manière que peuvent le faire des frères, avec respect et un détachement très nobilaire. Mais aujourd'hui est décidément une journée qui va changer le cours de leur vie. Alors Jean s'approche du rebord du navire et, comme son frère, regarde un instant sans rien dire les bâtiments de Brest qui s'éloignent. Autour d'eux, c'est déjà l'effervescence. Les hommes prennent leur place, commencent à se familiariser avec leur nouvelle maison, aussi flottante soit-elle. D'autres déjà sont saisis du mal de mer et, non loin d'eux, déversent dans l'océan le reste de leur petit déjeuner. Bon, c'est la vie, en somme, qui se déroule dans toute sa simplicité autour d'eux. Les ordres fusent, les pas s'accélèrent et eux sont comme dans une bulle familiale que personne, pas même le plus rose des officiers, ne peut percer. Non, ce moment leur appartient. Voilà une force que seuls des frères sont capables de déployer, face au doute, à l'inquiétude, à la peur et à l'adversité. Certains partent à la guerre, la fleur au fusil. C'est pas leur cas. Pierre et Jean de Craoué ne savent pas ce qui les attend, si ce n'est qu'ils vont participer à une guerre dans la guerre. Quelque chose d'absolument fantastique, qu'aucun militaire belge n'a encore jamais fait. Derrière eux, luisent au soleil leurs magnifiques bolides, les ACM, autocanons mitrailleuses. Un nom bien pompeux pour qualifier des bagnoles blindées équipées d'une mitrailleuse. Mais ça, peu importe, c'est déjà le progrès. Jean, qui n'a toujours pas parlé, se retourne et vient s'appuyer le dos sur le bastingage. Son petit frère, lui, n'a pas bougé depuis plusieurs minutes. Il ne regrette pas son engagement, mais dans son esprit génial, les questions fusent. L'opération est-elle faisable? Est-ce bien raisonnable d'aller s'enterrer là-haut, au cœur de la froide Russie? Il l'ignore totalement. Mais alors que ses idées s'embuent, la main de son grand frère vient se poser sur son épaule. Rien de plus que ce geste simple et tout devient clair. Pierre se retourne à son tour, plante ses deux yeux bruns dans ceux de son frère et ils s'échangent un sourire. Ils se sont compris. Pas la peine pour ça de prononcer le moindre mot. Haut les cœurs, la mitraille n'est pas de la merde, avait un jour prononcé sur un champ de bataille enneigé un colonel de la Grande Armée. Alors qu'il en soit ainsi. Sois prêtre ici. Les Craoué arrivent. La Belgique, en 1914, est comme souvent au cœur des hostilités. Mal placée entre l'Allemagne et la France, elle se défend avec acharnement et courage lors des premiers mois du conflit. Et puis, hélas, la puissance allemande fait le reste. En tout cas, le premier conflit mondial est une période de transition. La cavalerie côtoie pour la première fois l'automobile. Le maréchal Joffre, lors de la bataille de la Marne, sauve en partie son armée grâce aux taxis parisiens. Bientôt, les chevaux se retrouveront sans emploi. Les charges de cavalerie, comme l'Europe a pu en connaître durant des siècles, ne sont plus d'aucune utilité. C'est dans ce contexte de perpétuel changement que nos deux baroudeurs interviennent. Accompagnés du lieutenant Charles Encart, les deux hommes ont participé au blindage de leurs deux voitures personnelles. Le tout chez Cockerill. Une entreprise au service de la Belgique depuis déjà bien longtemps. De marque Minerva, les voitures se transforment en machines de guerre, équipées chacune d'une mitrailleuse. Deux premiers modèles en appellent d'autres et bientôt, les ACM, comme on les appelle, se retrouvent à couvrir la retraite de l'Isère. Et puis, comme je viens de vous l'évoquer, voilà que s'installe la guerre de position et donc, là non plus, les petites voitures blindées n'ont plus d'intérêt. La Belgique est alliée de la France, de l'Angleterre et de la Russie. Le tsar n'est pas encore en difficulté et s'en sort plutôt bien face aux Austro-Hongrois qui viennent le titiller. Pour autant, il cherche à se renforcer. Son attaché militaire à Paris a entendu parler de ces ACM et en fait demander sur le front russe. C'est le début de la grande aventure pour la compagnie qui va être mandatée à l'est de l'Europe. Pour les 333 hommes qui la composent, c'est véritablement une aventure dingue et novatrice qui commence. Et parmi eux, bien sûr, se trouvent Pierre et Jean de Craoué. Ces hommes vont vivre des moments dantesques sur le sol russe. En effet, l'Empire allemand finit par se réveiller et va rapidement mettre à mal le tsar Nicolas II en Russie. Isolé, mal conseillé, le souverain s'enferme dans un entêtement qui va finir par lui coûter sa place et à terme, sa vie. Mais en attendant, durant toute l'année 1916, les automitrailleuses se retrouvent sur le front et donnent la pleine mesure de leur potentiel. Vorobievka le 9 juin, Tsebrov le 11 août, Kounouki le 2 juillet de l'année suivante, puis Kossov le 21 juillet, date de la fête nationale belge. Des engagements épars qui s'explique par la situation particulièrement inorganisée de la politique russe de l'époque. Nicolas II est victime des Rouges qui prennent le pouvoir et le contingent, comme le reste des alliés de la Sainte-Mère Russie, se retrouve à soutenir un souverain bientôt déchu. Ses partisans, ceux qu'on appelle les Blancs, peuvent dans un premier temps compter sur le soutien des Belges et donc des frères Kraoué. Ces deux-là portent maintenant la barbe, la chapka et le long manteau. On croirait presque de vrais cosaques, mais ça ne suffit pas. Cette guerre n'est plus la leur. Il faut partir, rentrer au pays. Rapidement, le corps expéditionnaire se retrouve face à un problème d'ampleur. Alors qu'ils tentent de rebrousser chemin, les voilà pris entre deux feux, celui des Allemands d'un côté, qui ne leur feront aucun cadeau, et celui des Soviets de l'autre, qui n'attendent qu'une chose, massacrer les soutiens du tsar. Bien, donc rentrer par l'Europe continentale, impossible. Reprendre la mer, sans le soutien des autorités nouvelles, impossible. Bientôt, la seule solution qui s'offre à eux s'impose comme une évidence. Il va falloir traverser le pays, de Kossov à Vladivostok, un peu moins de 10 000 kilomètres, une paille. Le périple qui s'engage est celui de tous les dangers. D'abord dans le Caucase, puis le long de la frontière mongole. Aussi inquiétant que magnifique et formateur, ce voyage va se réaliser sans trop d'encombre. Et ce, malgré les quelques bâtons mis dans les roues par les Soviets, qui, bien entendu, ne vont pas faciliter la tâche de ses ennemis du communisme. Le 8 mars 1918, ils sont à Ekaterinbourg, le 29 à Karbin et le 18 avril enfin à l'autre bout du monde, Vladivostok, le tout grâce au chemin de fer installé par le tsar plusieurs années auparavant. Les automitrailleuses, elles, ont fini pour la plupart en pièces détachées. Le contingent a monnayé à Kiev leur sortie de la ville contre, je vous le donne en mille, de la vodka. Ils ont quand même dû abandonner les véhicules car les autorités locales menaçaient de les liquider sur place. Ambiance. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est maintenant le SS Sheridan, un navire du nouvel allié de la France et de l'Angleterre, les États-Unis, qui les attend. Le 24 avril 1918, c'est le grand départ et la fin des ennuis. Arrive maintenant le temps du repos et de la gloire. Pour Pierre et Jean de Kraoué, c'est une nouvelle découverte qui se profile, celle des États-Unis.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est au cœur de la vie d'une des familles les plus remarquables de notre pays, celle de la baronnie de Kraoué. Deux frères, Pierre et Jean, décident de devenir des pionniers de l'industrie automobile en pleine expansion et plus particulièrement celle des courses. Ils sont à l'origine de nombreuses innovations, du premier rallye dans le désert africain au circuit de Spa. Mais leur plus grand coup d'éclat est sans conteste le fait d'avoir traversé la Russie tout entière alors même que le pays est en guerre, ce qui, vous en conviendrez, était des plus dangereux. Impossible de rebrousser chemin. Pas de problème. Avançons dans ce cas. Des Ardennes, les voilà à San Francisco. Rien. Rien n'est jamais trop beau pour les frères de Kraoué. Nous sommes le 12 mai 1918. La ville de San Francisco, en Californie, est en plein cœur d'un printemps aussi chaud que redoutable pour toute source de verdure. Aujourd'hui, le SS Sheridan est arrivé au port après un long voyage entre la Russie et la côte américaine. Une véritable aventure alors même que la traversée russe aura été des plus redoutables. Les frères Kraoué ont les traits marqués, tout particulièrement. Mais ils sont heureux. Et alors qu'ils défilent au cœur d'une foule en liesse, en viennent à se demander si la guerre est terminée. Non. Non, elle est bien toujours en cours. Mais ici, ils sont accueillis comme des héros. Des ballons volent dans les airs, des drapeaux américains et belges pendent aux fenêtres. C'est remarquable. Le corps expéditionnaire se réjouit d'être de retour en terrain ami et les larmes coulent sur de nombreux visages. Leur mine patibulaire se détend quelque peu et les deux frères aussi peuvent profiter du moment. Ils ont réussi ensemble à surmonter l'impossible. L'aventure qui se termine aujourd'hui est la plus belle de leur vie, sans aucun doute possible. Jean, tout en secouant la tête, reste persuadé qu'il sera impossible de raconter au pays tout ce qu'ils ont pu voir et subir en Russie. Pierre, lui, a déjà dépassé ses interrogations. Il se contente d'admirer les grands bâtiments et ces gens qui, tout sourire, le remercient, lui, d'avoir pris part à cette guerre. Cela suffit à rallumer dans ses yeux assez d'étoiles pour raviver cet esprit brillant mis à rude épreuve durant ces longs mois d'errance dans les terres glaciales de l'Est. Mais entre San Francisco et la Belgique, la route est encore longue. La seule différence, cette fois, c'est que le voyage risque d'être agréable. Le 20 mai, les hommes sont à Sacramento et à Reno, le 25 à Chicago, le 26 à Détroit, enfin, le 28 mai, à New York City, la Big Apple. Nouvelle démonstration de reconnaissance et là, quelques jours de repos bien mérités avant de reprendre la mer pour l'Europe. Pierre et Jean de Craouet auront fait le tour du monde en automitrailleuse. Le 15 juin 1918, le SS La Lorraine, tout en symbole, est chargé de les reconduire sains et saufs sur le vieux continent. Le 23 juin, ils débarquent à Bordeaux et, alors que la guerre fait toujours rage, sont démobilisés le 16 juillet. Pour Pierre et Jean, c'est le retour dans leur Ardennes natale. À la fin de la guerre, ils continueront à être particulièrement actifs en roulant, volant, prenant aussi un peu de repos au sein des propriétés familiales. Ils mourront tous deux, là aussi tout un symbole, à quelques mois d'intervalle, comme si ces âmes jumelles, reliées à jamais par l'aventure et le goût du risque, ne pouvaient survivre l'une sans l'autre. Pierre s'éteint en 1925, Jean le 28 février 1926. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une anecdote qui concerne nos deux héros d'aujourd'hui. Quelque temps après la guerre, nos deux lurons préviennent leurs femmes respectives d'une sortie entre frères pour aller manger, du côté de Namur, des écrevisses. Et les voilà qui prennent une voiture et qui partent, tout tranquillement, se sustenter le midi. Et puis, au début de l'après-midi, l'un d'entre eux, peut-être est-ce Pierre, peut-être est-ce Jean, éprouve une soudaine envie de manger une choucroute. Voilà donc nos héros qui, tout naturellement, se dirigent vers la ville d'Aix-la-Chapelle en Allemagne où, le soir venu, ils mangeront une choucroute. Mais le périple ne s'arrête pas là. Ils décident de dormir sur place et de partir le lendemain vers une nouvelle destination. Et le cinéma va ainsi durer plus d'un mois, à la fin duquel, quand même, ils finiront par rentrer chez leur épouse. Une certaine idée de la liberté et le symbole d'un monde qui peut-être ne tournait pas aussi vite que celui d'aujourd'hui. La famille de Craouet, encore aujourd'hui, est toujours bien présente en Belgique, que ce soit dans les Ardennes ou en Brabant-Wallon. Certains des barons de Craouet ont notamment été de grands éleveurs de chevaux ou des militaires de talent, notamment dans les paracommandos. Le génie et les grandes idées de l'esprit, parfois, sont héréditaires. Voilà pour ce récit que j'ai eu la chance de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.